ça ne vous dit rien et ça ne signifie rien.
Objection votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Tania Rachaud.
Dans ce podcast, on vous propose d'analyser et de déconstruire des préjugés, des idées reçues sur l'Europe. C'est une émission qui est réalisée par Marin Hirsinger. Objection votre Europe revient avec une série spéciale Green Deal de 3 épisodes cette année, présentée par les étudiants et les étudiantes de l'Université Paris-Saclay. Le pacte vert européen, qui a été donc discuté au sein de l'Union européenne depuis 2019, explore de très nombreux sujets liés à l'environnement et donc on a pensé qu'il serait intéressant d'en décrypter quelques-uns. Et dans cet épisode, eh bien, Maëlle Collomb, Léa Mengui et Margot Trouvé vont nous parler de la thématique du Fonds social pour le climat.
L'Europe.
Dans notre bataille, c'est la transition écologique et la justice sociale. La création du Fonds social climat en est une preuve. Aujourd'hui, notre message aux Européens est clair. Nous allons soutenir les plus modestes, nos artisans, nos très petites entreprises.
Vous venez d'écouter Marie-Pierre Vedrenne, qui est députée européenne du groupe Renew Europe, qui s'exprime sur le Fonds social pour le climat. Alors Léa, expliquez-nous, c'est quoi ce Fonds social pour le climat ?
Le Fonds social, c'est de l'argent pour financer des actions et pour corriger les effets contraignants de la réduction des émissions de carbone. Mais plus précisément, le Fonds social pour le climat, c'est une mesure législative de l'Union européenne qui va venir financer des mesures et des investissements afin d'atténuer les effets négatifs de la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Adopté dans le Pacte vert pour l'Europe, appelé aussi Green Deal, le fonds fait partie d'un large paquet législatif intitulé Ajustement à l'objectif 55 ou Fit for 55, comprenant des propositions de mesures concrètes avec un objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne d'ici 2030. Pour promouvoir une transition juste, le Green Deal propose une série de mesures dans différents domaines tels que l'énergie, les transports, l'agriculture, la biodiversité et la rénovation des bâtiments. Dans ce cadre, la mise en place d'un nouveau marché carbone sur les émissions liées au secteur du bâtiment et du transport routier pourrait avoir de lourdes conséquences sur les plus consommateurs d'énergie fossile, dont font partie de nombreux ménages et entreprises. Ce nouveau système s'appliquera pour les secteurs du bâtiment et du transport routier, ainsi qu'aux carburants qui devront acheter des quotas en fonction de leur émission de CO2. Les entreprises devraient alors répercuter le surcoût de ces quotas directement sur les consommateurs. Pour atténuer les effets négatifs, le Fonds social pour le climat est un instrument financier spécifique qui fait partie intégrante du Green Deal. Il joue ainsi un rôle crucial dans la mise en œuvre pratique du Green Deal européen en fournissant un soutien financier aux initiatives climatiques à travers l'Europe. Pour soutenir les États membres de l'Union dans leurs efforts, le fonds vise à financer des projets qui contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment via des investissements, des mesures dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et les transports durables.
Très bien. Et Margot, dites-nous, dans ce pacte vert, ce Green Deal qui a pour objectif une neutralité carbone, ça veut dire qu'il y a un volet social aussi ?
Tout à fait. La réalisation des objectifs du Green Deal a poussé la Commission européenne à se saisir du défi social que celui-ci entraîne. Le fonds est là pour réduire les possibles lourdes conséquences néfastes sur les foyers les plus modestes de l'Union. La mise en place du pacte vert entraînera sans aucun doute une hausse significative des dépenses en énergie des Européens. Le fonds agit avant tout comme un régulateur pour éviter que les ménages les plus modestes et les usagers des transports paient le prix fort de cette transition. Le pacte vert cible directement le milieu des transports via des mesures telles que la fin des voitures thermiques neuves d'ici 2035, mais aussi du chauffage domestique où il existe encore de grandes disparités entre États membres et entre citoyens de ceux-ci. Cela s'illustre par la promotion de l'efficacité énergétique des bâtiments et la lutte contre les passoires thermiques. L'UE prévoit un budget global de 86,7 milliards d'euros. Ce budget comprend donc une enveloppe de 65 milliards d'euros pour la période 2026-2032 qui proviendra des recettes générées par la vente de quotas d'émissions de gaz à effet de serre du second marché carbone. Pour compléter le budget du fonds, les États membres devraient contribuer au minimum à 25% des coûts totaux estimés. Ainsi, dans son organisation, sa réalisation et sa viabilité, le fonds interroge notamment sur son mode de financement.
Donc Léa, vous pensez que le Fonds social pour le climat peut avoir un impact concret pour les ménages vulnérables et les usagers des transports ? Est-ce que c'est une vraie solution pour les accompagner dans la transition écologique voulue par l'Union européenne ?
Le Fonds social pour le climat a pour but premier justement de permettre cette transition vers une économie à faible émission de carbone en prenant en compte les disparités sociales existantes. Concernant les ménages vulnérables, l'une des principales sources de dépenses en énergie est le chauffage des logements. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne indique que l'énergie est une responsabilité partagée entre les États et l'Union, et dans ce cadre, l'efficacité énergétique apparaît comme une cible de choix. L'Union est un vaste territoire qui regroupe une variété de climats et de pratiques différentes. Par tradition, mais également pour des raisons d'accessibilité et de prix, certains États membres reposent encore largement sur des moyens de chauffage émettant beaucoup de CO2. C'est par exemple le cas de la Pologne, dont une grande majorité des chaudières fonctionnent encore au charbon aujourd'hui. Le développement des énergies renouvelables est également disparate sur l'ensemble du territoire européen. Et au-delà du mode de chauffage, la qualité du logement influence directement la consommation d'énergie et donc les émissions de carbone. L'Union entend lutter contre les passoires thermiques, c'est-à-dire ces logements mal isolés et qui consomment énormément d'énergie. Dans ces deux cas, ce sont les populations les plus vulnérables qui sont touchées en premier lieu. Tout d'abord parce qu'elles sont les principales habitantes de ces logements énergivores, puis parce qu'elles n'ont pas forcément les ressources nécessaires ou la possibilité d'accéder à des énergies plus propres. Le fonds pourrait alors s'illustrer comme un outil privilégié pour rénover les logements. Il pourrait permettre de financer des projets de développement et de transport d'énergie renouvelable dans ces zones qui sont pour le moment privées, faute la plupart du temps de moyens financiers. Concernant les transports, il faut rappeler cette statistique, 71,7% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du transport routier. Une fois de plus, chaque citoyen de l'Union n'est pas égal dans cette situation. Il faut faire la différence entre les citadins, qui ont plus d'options de transport, mais également un accès facile aux commodités, et à l'inverse, les habitants des zones périurbaines et rurales qui dépendent souvent de leurs véhicules personnels. Dans ce domaine, le fonds pourrait soutenir des initiatives de développement de transports en commun, d'aires de covoiturage ou aider à l'achat de véhicules plus propres. Il faut tout de même nuancer l'impact réel du Fonds social pour le climat. Le fonds doit être considéré comme une partie de la solution à une transition écologique juste, mais il doit être couplé avec d'autres politiques et actions de l'Union et des États membres pour assurer une réelle justice sociale. Le fonds a l'avantage d'avoir un caractère concret pour les usagers des transports et les ménages vulnérables, en ce qu'il apporte des solutions pratiques. Cependant, son efficacité repose très largement sur sa mise en œuvre, sur la disponibilité des fonds et la manière dont ils sont répartis.
Alors, Margot, forcément, l'élément clé du fonctionnement du Fonds social pour le climat, c'est son financement. Donc, on se demande logiquement l'argent qui est prévu est suffisant pour soutenir donc financièrement les destinataires du fonds. Est-ce que c'est assez ambitieux pour justement atténuer les effets négatifs de la transition vers l'énergie propre ?
Effectivement, l'ambition du fonds peut être reflétée par son financement. À l'origine, le projet de la Commission proposait un financement total de 144,4 milliards d'euros. Finalement, l'accord entre eurodéputés et États membres diminue grandement le budget global. L'UE prévoit désormais un budget global de 86,7 milliards d'euros. Cette diminution montre le manque d'engagement de certains États membres plus frileux à l'idée de créer un nouveau fonds dont la nécessité a parfois été remise en question. Les États membres fiscalement conservateurs pensent que les fonds européens déjà approuvés auraient pu être utilisés dans ce même objectif. De nombreuses critiques portent sur le montant de ce fonds. Ils estiment que le montant alloué est insuffisant pour répondre aux effets négatifs de l'imposition d'un prix du carbone dans le secteur des transports et des combustibles de chauffage. À cause du manque de moyens financiers, certains États membres comme la République tchèque, la Lituanie, Chypre, la Grèce et Malte ne sont pas convaincus que ce fonds soit en mesure d'atténuer suffisamment les conséquences pour les ménages vulnérables et les entreprises. Le montant du fonds serait donc trop faible pour compenser à la fois le coût de la hausse du prix du carbone, ainsi que les investissements et mesures dans des solutions décarbonées. Le fonds est bien en deçà des réels besoins. Un autre point de critique est le lancement trop tardif de ce fonds. Lancé seulement un an avant le nouveau marché carbone, certaines voix estiment que le fonds ne pourrait pas compenser l'impact des effets négatifs à temps. Aussi, le risque que le financement n'aboutisse pas reste possible en cas d'échec du marché carbone. En effet, dépendant des recettes générées par la vente de quotas d'émissions de gaz à effet de serre du second marché carbone, sans ce nouveau marché, pas de fonds social pour le climat. C'est pourquoi, plutôt que de compenser les effets négatifs créés par le nouveau marché carbone, certains proposent de le financer avec le marché actuel. Cependant, malgré les critiques formulées, le fonds a été adopté en misant en grande partie sur le succès de ce nouveau marché. Aujourd'hui, rien n'assure aux destinataires de ce fonds que le financement obtenu correspondra au montant prévu. Malgré une ambition forte, le Fonds social pour le climat reste un point de départ important pour compenser les effets négatifs des mesures adoptées dans le cadre du Green Deal. Il a le mérite d'envoyer un signal fort de l'engagement de l'UE vers une transition juste. Le fonds reste une des réponses, et non la réponse, à l'impact de cette transition. Pour accomplir pleinement son objectif, des sources alternatives de financement doivent être étudiées pour augmenter le budget du Fonds social pour le climat afin qu'il soit efficace.
Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
Nous venons d'écouter Earth Song de Michael Jackson et nous parlons toujours du Fonds social pour le climat dans le cadre de cette série spéciale Green Deal dans Objection Votre Europe. Et je me tourne donc maintenant vers Maëlle pour savoir justement sur le financement du fonds qu'on a évoqué à l'instant. Ce sont les États membres qui doivent établir un plan social pour le climat avec les mesures, les investissements à long terme. Mais ces mesures et investissements laissent une grande marge de manœuvre aux États. Est-ce que ces plans sociaux pour le climat sont un moyen vraiment efficace pour atteindre la neutralité carbone, alors même qu'ils risquent forcément d'être disparates et se pose la question de la cohérence aussi d'un plan à l'autre entre les États membres?
Il est vrai que l'établissement des plans sociaux par les États membres peut faire croire à une certaine disparité puisque leur élaboration se réalise au niveau national. Cette apparence de disparité pourrait compromettre les objectifs communs de l'Union en matière climatique et énergétique. Toutefois, dans la même logique que les plans stratégiques nationaux établis dans le cadre de la politique agricole commune, le règlement de 2023 instituant le Fonds social pour le climat prévoit un rôle essentiel joué par la Commission européenne qui, justement, vise à garantir la cohérence et l'efficacité du mécanisme. En effet, Les plans sociaux sont avant tout soumis à la Commission et comprennent, d'après le texte du règlement, un ensemble cohérent de mesures et d'investissements nationaux, existants ou nouveaux, visant à répondre aux effets de la tarification du carbone. C'est ce que prévoit l'article 4 du texte. Suite à cette présentation des plans par les États membres, la Commission va alors procéder à un examen individuel de ceux-ci. Elle est ainsi amenée à évaluer la conformité des 27 plans différents, en s'intéressant à leur pertinence, leur efficacité, leur efficience et leur cohérence au niveau national, afin de garantir le caractère adéquat des mesures prises par chaque État membre à la lumière de leur situation spécifique. Elle peut également formuler des observations et demander des renseignements complémentaires aux États membres, pouvant conduire à des modifications et des mesures envisagées au cours de la procédure d'évaluation. À l'issue de cet examen d'une durée maximale de 5 mois, la Commission rend une décision d'exécution à l'égard des plans soumis par les 27, qui conditionne le versement des financements du fonds à ces derniers. Si la décision est positive, l'État membre concerné pourra obtenir les financements et les utiliser pour mettre en œuvre les mesures et les investissements nationaux conformes aux objectifs du Fonds social. En revanche, si l'évaluation de la Commission donne lieu à une décision négative, l'État membre en question sera dans l'obligation de soumettre un nouveau plan social en tenant compte de l'examen de la Commission. Le rôle de la Commission ne se limite pas à une appréciation en amont des mesures et investissements nationaux compris dans le plan social de chaque État membre. En outre, le règlement de 2023 donne compétence à la Commission pour assurer le suivi de la réalisation des plans sociaux nationaux a posteriori, de façon donc plus concrète. De fait, tous les deux ans, à compter des premiers versements du fonds, chaque État membre devra rendre compte à la Commission de la mise en œuvre de son propre plan, en même temps que d'un rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat. La Commission pourra donc toujours porter un regard sur les différentes actions menées par les États membres, le tout dans une logique de publicité et de transparence. Ainsi, en tant que gestionnaire direct du Fonds social, la Commission s'impose comme un acteur clé de l'ensemble de ce système de programmation nationale. Elle permet véritablement d'assurer la cohérence et l'efficience des mesures présentées dans les 27 plans sociaux pour le climat, en vue de la réalisation des objectifs de l'Union au titre du Fonds social.
Donc, en définitive, Maëlle, le Fonds social pour le climat apparaît comme une mesure qui est donc intéressante, mais peut-être un peu jeune pour pouvoir être appréciée pleinement, c'est ça ?
C'est ça, son initiative et les principes sur lesquels il repose témoignent clairement de la prise de conscience de l'Union européenne quant au poids des objectifs ambitieux du Pacte vert européen sur les plus vulnérables. En tant qu'outil financier et à travers sa logique de programmation et de cohérence garantie par la gestion de la Commission, le fonds encourage véritablement les États membres à tenir leurs engagements vers la neutralité climatique. Il faudra cependant attendre encore quelques années pour être en mesure d'évaluer de façon globale son efficacité et de voir s'il constitue une réponse adéquate aux objectifs qu'il poursuit. D'autant plus que son avenir et sa réalisation semblent particulièrement dépendants des évolutions politiques au sein de l'Union.
En somme, c'est une question à suivre, ce fameux Fonds social pour le climat, en espérant que tous ces éléments vous aident à mieux comprendre de quoi il s'agit. Merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, spécial Green Deal par les étudiants et étudiantes, donc Maëlle Collomb, Margot Trouvé et Léa Mengi du Master Droit Européen de Paris-Saclay. C'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site d'Amicus Radio et celui des Surligneurs. Et surtout, abonnez-vous pour être au courant des prochaines sorties.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.